Retrouve les podcasts des émissions sur Libre Radio, www.libradio.org.
Libre Radio se retrouve aujourd'hui dans les locaux d'une chose étrange qu'on nomme Utopie. Et en compagnie, maintenant, d'Esteban et de Donna, que je vais laisser se présenter, surtout nous dire, mais qu'est-ce que c'est que Utopie ? Je vous laisse aller. À vous, Donna et Esteban.
Alors, je m'appelle Donna, donc je fais un stage à Utopie d'une durée de 10 mois pour pouvoir aller à l'EPIA l'année prochaine, justement, en informatique. Et j'ai découvert Utopie un peu par hasard. Et là, je suis à la fin de mon stage et ça se passe très très bien. Je suis devenue coopératrice et j'espère ne jamais perdre ce lien avec Utopie parce que c'est vraiment génial. Et je vais laisser Esteban, le fondateur, un des fondateurs d'Utopie, nous dire un peu plus.
Bonjour. Alors, Utopie Informatique, qu'est-ce que c'est Utopie Informatique hein? C'est une coopérative à but non lucratif qui a pour but de promouvoir une autre informatique plus proche des valeurs de la transition, plus proche des valeurs de l'écologie, du social. Et la coopérative est la plus lucrative, on vient de dire, on a 186 membres actuellement, avec une vingtaine de coopérateurs prestataires, des personnes qui travaillent, 6 coopérateurs salariés, et beaucoup de stagiaires, des apprentis, et beaucoup de personnes qui sont hyper sympathisantes avec la coopérative et qui portent les mêmes valeurs.
Deux premières questions très concrètes. Est-ce que peut-être Esteban, vu que tu es le fondateur, tu peux nous expliquer de où vient le nom, comment vous êtes venu ce nom de Utopie, qui est très particulier. Et deuxième chose, cette volonté de coopérative, pourquoi la forme de coopérative? Pourquoi pas une SA, une association Quand et comment est émergée cette idée de coopérative?
Utopie, il a besoin de 7 personnes pour pouvoir être fondée pour n'importe quelle coopérative. Alors moi, je suis une de ces personnes-là. Après, la coopérative, il a pour but d'être partagée entre les différentes personnes qui participent. Et le départ de la coopérative, c'était vraiment pour des informaticiens, que la plupart des informaticiens indépendants travaillaient de façon indépendante, mais ils se sentaient toujours esclaves du travail actuellement. Ils ne pouvaient pas partager ses savoirs, ils ne pouvaient pas avoir un demande d'aide avec les autres personnes qui travaillent comme indépendants. Le but, c'était de regrouper ces personnes-là dans un seul endroit et faire le partage des connaissances, le partage des temps, pouvoir assurer que quelqu'un d'autre puisse suivre ses clients pendant qu'on part de vacances ou pendant que la connaissance, on va dire. Bon, actuellement, l'informatique elle est tellement vaste, on doit apprendre tous les jours. Mais par contre, on ne peut pas devenir spécialiste de chacune des choses. Si on travaille en coopérative, on peut avoir des profils différents et avoir des personnes qui travaillent de façon différente. On va dire. Mais cette coopérative-là, il a évolué, il a changé, il a eu on a des différents types de coopérateurs. On a des coopérateurs prestataires, qui sont les indépendants qui commencent à travailler avec nous. Après, il y a des coopérateurs bénéficiaires, qui sont les entreprises qui travaillent avec Utopie, qui sont servies par les indépendants. Il y a les coopérateurs salariés et après il y a les coopérateurs sympathisants. Entre tous, tout le monde, il y a le même pouvoir, on va dire, à l'Assemblée Générale, une voix par chaque personne. Alors du coup, on est tous, on va dire, égaux dans cette coopérative-là. Et ça bouge, ça dépend de tous où ils vont, tous ensemble. On est tous salaires. Les salariés, on est tous égaux au niveau salaire. On n'a pas d'hiérarchie. Et qu'est-ce d'autre que j'ai oublié? Utopie, le nom d'Utopie elle-même, il était choisi par Mauricio au départ. C'était son nom propre, c'était une entreprise en forme privée qui est devenue une coopérative. Et le nom, c'est lié à l'utopie de la société actuelle, à la forme informatique.
Alors toi qui es membre fondateur, c'est vrai que là tu nous exposes déjà des choses qui sont empreintes de beaucoup de valeurs, l'horizontalisme, le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie, que les salaires soient égaux, et apparemment c'est quelque chose qui t'habite depuis longtemps, mais Dena, du coup, je me permets de dire, toi t'es plus jeune que Esteban, et j'aurais voulu savoir comment tu t'es retrouvé ici, alors tu dis que c'est pour ensuite aller à l'EPIA, mais alors, peut-être qu'on en parlera à un autre moment, mais moi je me rends compte qu'il est difficile de trouver une informatique entre guillemets alternative à ce qu'on a dans le monde en général. Et du coup, comment toi tu t'es retrouvé dans les murs d'Utopie? Est-ce que c'est toi qui es venu? Comment ça s'est passé?
Alors en fait, déjà, quand j'ai commencé à postuler justement pour faire un stage pour pouvoir aller à l'EPIA derrière, je savais que 90% où je postulais, j'allais me retrouver derrière un ordi dans un bureau limite isolé, et puis je fais de la maintenance un peu toute la journée, et c'était un peu l'aspect qui me dérangeait. Je voulais pas forcément faire ça. Et quand je suis tombée sur Utopie, c'était vraiment par hasard. Je me rappelle plus si c'est la dame de l'EPIA qui m'en a parlé, donc la dame avec qui j'avais parlé de mes projets, ou si juste en faisant 2-3 recherches je suis tombée sur Utopie. Mais quand j'ai vu le concept, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ok, c'est ça que je veux, je vais pas me retrouver. En fait, c'est ça qui est cool avec Utopie, c'est que tous les jours je fais quelque chose de différent. Je fais jamais la même chose. Et c'est ça qui est génial. Je me retrouve jamais à être derrière un bureau toute la journée. On est tout le temps en train de discuter, de parler, de rigoler. Il y a de la musique quand on travaille. Et puis pour moi, c'est vraiment important parce que tous les jours, quand je vais à Utopie, je suis contente d'être à Utopie. Je me dis pas, genre, j'ai pas envie d'être là. Ou je trouve une excuse pour partir plus tôt. Non, si je dois rester plus tard, je reste plus tard. Si je dois venir plus tôt, je viens plus tôt. Et je pense que j'ai un peu eu de la chance d'être tombée sur Utopie parce que avant de vouloir faire de l'informatique, j'ai déjà eu des problèmes avec mon ordinateur. Et j'ai rarement. Enfin, avant Utopie, je ne savais pas qu'Utopie existait, tu vois. Et je me dis, c'est dommage. Parce que par exemple, je ne sais pas si à l'Uni, ou. Bon, à l'EPA, ils parlent beaucoup d'Utopie, mais par exemple, si à l'Uni, ils parlaient d'Utopie pour tous les jeunes qui ont besoin d'ordinateurs ou qui ont besoin de réparer l'ordinateur à un prix qui n'est pas forcément hyper élevé et exorbitant, Utopie existe.
Et t'as trouvé ton bonheur ici.
Et j'ai trouvé mon bonheur.
C'est trop bien. Alors je reviens un peu vers toi, Esteban. Tu nous as parlé pendant la présentation d'Utopie de ce que vous y visiez, de termes, notamment de la transition. T'as parlé aussi de sobriété numérique, il me semble. Tout ça, c'est des choses qu'on voit même sur les murs d'Utopie. Il y en a un qui n'est pas la visible, mais que je connais très bien. Où c'est comme une liste de courses et puis c'est marqué manger bio, c'est fait. Acheter des vêtements équitables, c'est fait. Je sais plus quoi, c'est fait. Et mon informatique, qu'en faire? Et c'est vrai qu'on est dans un monde qui est extrêmement complexe, avec des termes qui sont pour certains difficiles. Est-ce que tu pourrais nous donner une brève et assez large définition de ce que vous faites ici, quelles sont les valeurs qui sont promues par la coopérative?
Oui, ça c'est vaste. Mais c'est vrai que si on reste dans l'informatique, sur une sobriété numérique, ça veut dire qu'on utilise, oui, éventuellement l'informatique comme un outil, mais cet outil-là, ce n'est pas le tout, c'est pas un objectif en tel quel. Un outil, un ordinateur, c'est un outil. Alors, on doit l'utiliser pour faire une tâche ponctuellement. Et pas pour ce que c'est capable de faire l'ordinateur, sinon pour la tâche que normalement on devrait y faire. Alors ça veut dire que pour exemple, si on a besoin de se connecter à Internet et aller écrire une lettre, un mail, on a besoin d'un ordinateur, mais vraiment avec un ordinateur de 15 ans en arrière, on peut faire ça, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui m'apporte en nouveauté d'un ordinateur? Peut-être un petit peu plus rapide, mais en fait, pas tant que ça, si on n'utilise que des logiciels libres, des choses comme ça. Alors, on dit, par exemple, si on a des ordinateurs qu'ils devraient tenir tous, les ordinateurs, ils devraient tenir 10 ans de minimum pour d'utilisation, pour compenser son énergie grise. Mais on devrait, tous les ordinateurs du commerce, ils devraient avoir ça. Actuellement, on se retrouve qu'avec des ordinateurs de la gamme professionnelle qui donnent cette possibilité-là. Et la plupart des entreprises, ils liquident ces ordinateurs-là professionnels après 4 ans d'utilisation seulement. C'est assez aberrant. Alors, du coup, avec cette informatique-là actuellement, il est pas soutenable. On va pas arriver à long port. Si on dit qu'on reste avec une société, ça veut dire qu'on va essayer de réparer les ordi. On va préparer des ordinateurs lesquels on va tenir 10 ans, 15 ans, et on va essayer de les réparer le plus souvent possible et pour le maintenir le plus longtemps possible. On actuellement on parle des compensations carbone et des choses comme ça. Actuellement, un ordinateur fixe, ça équivaut à la consommation de carbone qui est utilisée pour la construction de cet ordinateur-là, c'est 80 ans d'utilisation. Alors du coup, on ne va jamais arriver à compenser quoi qu'il soit avec l'utilisation de l'ordinateur. Alors si on ne réduit pas vraiment ses besoins, et on reste vraiment avec vraiment le besoin, pas avec le souhait, avec l'intérêt de la technologie, on ne va jamais arriver à sortir avec une informatique plus raisonnable, on va dire. On essayait de comparer ce que c'était, on essayait de faire une conférence avec Samuel par rapport à une informatique écologique. Et malheureusement, on n'a jamais retrouvé une façon de pouvoir dire que l'informatique est écologique. Même n'importe quel type d'utilisation n'est jamais être possible. Alors, il faut vraiment réduire le plus possible et réutiliser des ordinateurs lesquels sont valorisés, lesquels sont installés avec des systèmes d'exploitation libres. Lesquels réduit aussi la consommation des ressources de l'ordinateur, il fait tenir plus longtemps. Et utiliser que des plateformes qui utilisent que des logiciels libres, comme LibreOffice, et réduire vraiment sa consommation, même dans les réseaux sociaux et tout ça.
Tu nous donnes une toute petite définition de ce que c'est le logiciel libre?
C'est le contraire d'un logiciel privatif. Alors, le plus utilisé actuellement, on va dire, à niveau personnel, c'est des logiciels qui privent l'utilisation de la personne. Alors, ça veut dire qu'il empêche que la personne apprend, il empêche que la personne puisse développer ce logiciel-là, il puisse avoir plus de la connexion, il appropie ces personnes-là à des. Pour qu'ils restent seulement sur ce logiciel-là, ils ne puissent pas apprendre à utiliser vraiment leur outil. Alors, un logiciel libre fait complètement le contraire. Il va permettre à la personne d'utiliser ce logiciel-là sans devoir payer quoi qu'il soit, le partager avec les personnes, apprendre à l'utiliser vraiment, à se former, apprendre à développer ce logiciel s'il y a de la connaissance là en soi. Et, alors c'est vraiment le contraire complètement à l'utilisation qu'on fait de cette informatique-là. Actuellement aussi un logiciel libre, c'est pas seulement un logiciel, sinon c'est un service libre qu'il y a en ligne, développé avec ces logiciels libres. Parce qu'actuellement on utilise de moins en moins des logiciels et on utilise que des plateformes en ligne pour faire les choses. Et là de nouveau on reste captif de ces informations-là et qu'on doit vraiment gérer d'une façon différente ces services. Et pas aller vers les réseaux sociaux privatifs, même s'ils sont publics, accès, qu'il n'y a rien à payer. En fait, c'est des privatifs et le modèle économique, c'est la rentabilité financière. Alors, je ne sais pas si j'y réponds à peu près.
Si, tout à fait.
Mais juste avec les contraires.
C'est parfait, merci. Donc, Itopie propose de la réflexion et du matériel, enfin, des outils, que ce soit autant matériel que logiciel. Mm-hmm. Et du coup, concrètement, par quoi ça se traduit? Qu'est-ce que vous avez dans cette arcade? Est-ce qu'il y a un atelier? Est-ce qu'il y a un point de vente? Est-ce que vous proposez plus que ça, notamment des formations peut-être? Est-ce que vous avez un catalogue de services?
Évidemment, il y a plein de choses sur le site web, il faut aller voir. Mais par contre, je te laisse expliquer qu'est-ce que fait l'atelier et qu'est-ce que les services.
Oui, parce que du coup, moi, je fais mon stage à l'atelier de réparation. Donc en fait, Itopie est séparée en deux parties. La partie atelier de réparation et de vente de matériel informatique et l'autre partie de gestion de parc informatique justement d'entreprise. Et moi, je suis dans la partie atelier. Donc on s'occupe principalement de réparer des machines. Donc les clients nous ramènent des machines avec certains problèmes. Et donc nous, on essaye toujours de trouver la meilleure solution et la plus rentable. Après, on prépare aussi beaucoup de machines à la vente dans le sens où on reçoit donc des ordinateurs qui ont été justement abandonnés en quelque sorte par des entreprises pour renouveler leur parc informatique, sauf que c'est des ordinateurs qui fonctionnent très bien ou qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Et donc nous, on leur donne ce petit coup de pouce. Et après, on peut les revendre, donc à un prix beaucoup moins cher qu'on trouverait dans du neuf, forcément, mais aussi à une qualité supérieure. Dans le sens où un PC que nous, on vend d'occasion, il est à un prix équivalent d'un PC commercial neuf, mais au niveau de la qualité, il est beaucoup, beaucoup plus supérieur. Et moi, c'est quelque chose, par exemple, que je ne connaissais pas en Éthiopie. Je ne savais pas qu'il y avait cette notion de gamme professionnelle et gamme commerciale. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de gamme professionnelle dans les différents magasins. Et du coup, je ne connaissais pas. Et beaucoup de gens ne savent pas. Et par exemple, juste derrière, il y a un client qui a une machine depuis plus de 10 ans. Et là, il est venu lui donner un petit coup de pouce. Et il est reparti pour 10 ans.
Génial.
Voilà. Est-ce que j'espère.
Est-ce que toi, quand tu es à l'atelier, des fois, tu as une espèce de sentiments positifs dans le sens où voilà, t'as une machine qui marche pas et puis grâce à toi bah, en fait elle renaît un peu, tu
mais
vois,
tout le temps.
Et c'est
satisfaisant de te dire, par exemple on ramène une machine hyper lente avec un petit disque dur mécanique, moi je clone le disque sur le système sur un disque électronique et après je vois que ça va hyper vite, je suis génial. Et même ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand les clients ils arrivent et que je leur montre comment ça a changé et qu'ils me disent genre mais c'est génial, je pensais devoir aller m'acheter un nouvel ordinateur. En fait, non.
Et c'est beaucoup plus gratifiant que de vendre un PC.
Complètement. D'ailleurs, je trouve qu'on... Enfin, de mon expérience personnelle, j'ai beaucoup plus eu affaire à des réparations qu'à de la vente.
Alors, on parle beaucoup, effectivement, réparation, matériel. Il s'avère que vous proposez aussi des formations, que ce soit des formations logicielles, mais aussi des espaces de réflexion, de discussion autour de qu'est-ce que l'informatique, qu'est-ce que le numérique, quelle est l'utilisation, une forme de mise en miroir de qui nous sommes, nous, en tant qu'utilisateurs. Et du coup, Utopie œuvre un peu plus que simplement la vente de matériel. Moi, j'ai l'impression que vous essayez de conscientiser les gens et de faire des citoyens plus que des simples citoyens numériques, mais des acteurs à proprement parler. De leur utilisation de ces machines. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que vous trouvez un public preneur? Est-ce que vous avez l'impression autour de vous, en tout cas à Genève, parce que là on est à Genève, que les gens commencent à se poser des questions et qu'il y a effectivement une forme de conscientisation de la population? Ou vous trouvez que ça va plutôt dans l'autre sens et que du coup vous avez de moins en moins de gens qui viennent peut-être pour vraiment ces trucs liés aux valeurs et à notre utilisation collective?
Non, il y a une sensibilisation, une nouvelle sensibilisation avec les gens qui commencent pas forcément par l'informatique, qui commencent vraiment sur des autres points, dans le niveau écologique, au niveau réflexion à l'utilisation de la voiture, réflexion à manger bio, des choses comme ça. Et à un moment donné, ils se retrouvent avec un problème vraiment d'informatique et c'est là qu'ils commencent à dire bah, c'est vrai qu'il faudrait faire quelque chose. Et dès là, ils commencent à voir, chercher, comme dit Donna, chercher sur Internet, chercher, ils retrouvent Utopie. Et Utopie, ils communiquent vraiment qu'ils ne communiquent pas par les réseaux sociaux, ils communiquent en bouche à oreille, ils communiquent avec les newsletters que nous on génère. Oui, dans le reste de l'économie sociale solidaire. Alors du coup, ça reste dans, on va dire, une niche, on va dire, actuellement, et qui n'est pas très connue du grand public, on va dire. On a un petit peu plus de la peine à faire la communication. Par contre, grâce à la communication, pour son agenda 21, les SIG qui commencent à faire un développement plus consciencieux, et avec toutes ces démarches-là, on commence à toucher des autres personnes. Mais ces personnes-là, c'est vraiment actuellement, c'est presque la première fois qu'ils écoutent qu'il y a une informatique différente. Mais si on continue avec les formations, avec les conférences, avec la communication, les sites qu'on fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont changer, qui vont adhérer à cette démarche.
Et tu parlais effectivement d'une niche que là pour l'instant ça reste, mais c'est en tout cas la volonté de s'ouvrir et d'être le plus inclusif possible pour que les gens puissent rejoindre ce mouvement-là.
Oui, mais pas en. On dit oui, mais pas en forçant, on va dire.
Ouais.
Il y a beaucoup de personnes qui sont toutes les valeurs compatibles avec l'économie sociale et solidaire, mais qui sont jamais adhérées à l'économie sociale et solidaire parce qu'ils sont considérés, bon non, c'est juste des discours, mais en fait, ils sont vraiment, les valeurs sont vraiment à part, jusqu'à le moment qu'ils ont besoin. Si on les force la main, tu dis, bah quoi, à partir de maintenant, tout le monde doit utiliser que des logiciels libres à Genève, point, décret. Il y a énormément de personnes qui sont être pas contents avec cette utilisation-là et tout ça. Que ça a eu le cas aussi avec l'IP qu'on a imposé sur les écoles d'installer Ubuntu sur tous les postes de travail de les profs, sans avoir formé les gens. l'avance. Alors, du coup, on retrouvait qu'ils commençaient l'année scolaire avec un ordinateur, avec un système qu'ils ne connaissaient pas, pas configuré avec les imprimantes. Alors, tout un mouvement qui est tombé à l'eau, on va dire, dans ce sens-là, parce que c'était mal géré. Ce n'était pas une demande à l'intérieur. Beaucoup de profs ils sont restés avec Ubuntu et qui se sont dit non, mais ce système va très bien, ils continuent à l'utiliser dans les écoles. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui sont. Mais bon, pendant qu'on essaye de faire motiver, et chaque fois c'est discuter les valeurs, qu'est-ce que vous faites, comment est-ce que vous faites les choses, à un moment donné on peut les toucher, dire bah, regarde, les valeurs que nous on porte, c'est à peu près les mêmes que tu portes là actuellement. Et une fois qu'ils sont ouverts les yeux, bah, il ne reste pas autre chose que vraiment s'adhérer à cette démarche-là.
Alors, on est aujourd'hui ici aussi, surtout en fait, pour parler des 10 ans de la coopérative, parce que c'est cette année, c'est maintenant. Et du coup, bah, je voulais revenir un peu là-dessus et vous proposer de nous faire un petit bilan, bah, surtout toi, Esteban, c'est toi qui parles beaucoup, hein, c'est un peu le fondateur. Bilan de ces 10 premières années, qu'est-ce qu'il y a eu de beau, qu'est-ce qu'il y a eu de moins beau, quels sont les enseignements à en tirer selon toi?
Un bilan, c'était toujours hyper positif. Utopie, il a eu énormément d'évolution, parce que c'est évolution par rapport à des personnes qui sont autour, et que c'est assez motivant. Il a eu des moments assez difficiles, 5 ans en arrière, à niveau économique, mais qu'on s'est senti vraiment soutenu par les personnes. Et avant, on était, pour exemple, on utilisait pas le volet coopérateur sympathisant, c'était que rester avec les coopérateurs prestataires, coopérateurs tous les coopérateurs et autres, mais pas les sympathisants. Et alors, du coup, on a décidé de dire bon, ok, on ouvre ça et à voir quelle réaction il y a les gens dans ce sens-là, qui adhèrent les gens particuliers, les personnes qui sont juste venues à préparer un fois l'ordinateur, deux fois, ils sont vus que notre travail est bon. Et là, tout à coup, il y a une explosion de personnes qui disent ah voilà, non, on vous soutient, on sait que vous avez actuellement des problèmes, tout ça, ils sont venus là. Et ce mouvement-là, ce n'était pas temporaire, sinon tous les mois, on a de nouveaux coopérateurs qui arrivent. Alors, chaque nouveau coopérateur qui arrive, c'est toute une histoire pour le qui, pourquoi. Qu'est-ce qu'il a changé dans sa vie? Il y a un gros clash dans son comportement. Il montre ces choses-là, il adhère à la coopérative. Alors, du coup, ça nous enregistre chaque fois de plus. Alors, c'est pour ça qu'actuellement, on est 80 quelques. Mais c'est hyper intéressant. Après, c'est assez difficile à gérer une coopérative de cette taille-là. On reste toujours une taille humaine, on ne veut pas trop grandir non plus. On voudrait qu'il y ait des autres coopératives qui s'ouvrent autour de nous, qui ont fait des fédérations de coopératives, des choses comme ça. Mais voilà, c'est des projets que les gens disent « Ah ouais, mais il y a beaucoup de travail à faire encore à ces côtés-là ». Et on a, par exemple, Homme Informatique, il y a une association, il y a 5 ans qu'ils sont là, ils sont encore en train d'essayer de s'en sortir, on va dire. Et c'est hyper intéressant d'avoir déjà eu un petit fils, on va dire, de ces services-là. Et du coup, c'est hyper motivant. J'espère que de toute façon, il va continuer à évoluer de façon différente. On ne peut pas prévoir comme l'évolution, parce qu'il y a de nouveau, on est ouvert à tout le monde qui entre. Il y a les nouvelles idées. Alors, pour moi, c'est hyper motivant.
Dena, t'es pas là depuis longtemps, mais toi, t'aurais quelque chose, un bilan à faire de ton expérience jusqu'à maintenant.
Ah, mon bilan, il est 100% positif.
Ok. Ouais, t'as des étoiles dans les yeux.
Ah, c'est incroyable.
On est aux 10 ans. Bon, on est sûr que ça va durer encore 10 ans, voire même 100, voire même 1000, qui sait. Qu'est-ce qui vient pour les mois, les années qui suivent? Quelles sont vos perspectives? Qu'est-ce qui vous nous attend? Dites-moi un peu. Toi, Dena, peut-être, qui, tu sais, même après ton stage, tu veux rester membre de la coopérative?
Ah, moi, je reste membre de la coopérative. Ils vont plus pouvoir se débarrasser de moi, malheureusement. Esteban, tu vas devoir me supporter.
Les avenirs, comme il y a beaucoup de personnes qui se réveillent dans ce sens-là, des parties de l'État qui se réveillent et disent ben, voilà, il faut aller vers cette voie-là. Alors c'est assez motivant, on essaie de faire bouger les lois dans le sens pour la récupération des matériels, pour faire le projet Itopies, que c'est pour les pièces détachées, pour pouvoir réparer encore des ordinateurs et pas exporter ça comme matériel de charge. Sinon, il y a plein de projets qui vont autour de là. Mais malheureusement, je vois que les tendances à la facilité, à l'utilisation des matériels et jeter le matériel électronique, il est trop pressant actuellement. Et c'est mon mauvais côté, je vois qu'en fait, peut-être qu'il va y avoir un clash de ce côté-là en quelques années parce qu'on ne va pas avoir assez de ressources technologiques pour pouvoir avoir cette quantité de technologie qu'on consomme actuellement aujourd'hui. Alors, ces personnes-là, ils vont changer, ils vont devoir venir à faire ce qu'on fait nous actuellement, mais on est plus forcé. Ouais. Mais sinon, pour tout le reste, c'est très bien. Il y a plein de monde d'espoir qu'il y a des choses qui changent profondément.
Et pour ça, Utopie œuvre et veille. Dernière petite, on arrive gentiment à la fin de l'interview. Une dernière petite question peut-être, c'est à l'heure actuelle de quoi vous auriez besoin? On le sait, radio est écoutée de manière internationale à travers le monde entier. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de participer à l'effort commun ou de venir vous soutenir. Alors vous avez besoin de quoi? Est-ce que vous avez besoin de matériel, d'espace, de plus de membres, de gens qui viennent vous apporter des projets particuliers, ou peut-être que vous avez besoin de rien à l'heure actuelle et que c'est une vitesse de croisière idéale et que pour l'instant ça va.
Bon, il y a toujours on a toujours besoin des renforts, des informaticiens qui veulent s'ouvrir vers cette informatique libre. On a toujours besoin de que les personnes prennent conscience, que les personnes qui sont pris conscience, ils transmettent cette conscience-là à les autres personnes. On a besoin de plus de coopérateurs, mais pas pour avoir un nombre plus grand, plutôt pour avoir des partages plus importants. Par exemple, on se dit bah, y a Alternativa bientôt, et on va pouvoir être avec Utopie Alternativa. Bah, c'est hyper intéressant d'avoir plein de coopérateurs qui sont à l'intérieur de là et qui viennent nous aider à donner ces mains-là pour ces journées-là. Et qui vont faire eux-mêmes le discours à quelqu'un d'autre plus tard sur notre création. Donc ça, oui, on a besoin. Après, comme je disais, c'est bien qu'on reste taille humaine dans le centre d'Utopie, ça doit rester taille humaine, et c'est pour ça que c'est hyper bien d'avoir des autres, on va dire, coopératives autour.
Et des fédérations de coopératives.
Des fédérations de coopératives. Pour ça, chaque monde peut rester taille humaine.
Et donc, si on veut vous trouver très concrètement, Donna, tu nous donnes un peu les infos, le site internet, l'adresse et le numéro de téléphone. Il y a un numéro de téléphone.
Alors, l'adresse, c'est la rue Lissignol 10, 1201 Genève. Le site, c'est donc itopie.ch. Et le numéro de téléphone, c'est le 022 557 63 70. Et bien sûr, vous pouvez toujours nous envoyer un mail à contact@itopie.ch. On vous répondra avec grand plaisir.
Ou mieux passer.
Ah, mais ça c'est le top du top, effectivement.
Et pour moi qui suis simple, comme on dit, coopératrice sympathisante, c'est très sympa de passer ici toujours. Extra, eh ben écoutez, une question que j'aurais oublié de vous poser à laquelle vous auriez aimé répondre.
Non, je crois que c'est tout bon.
Extra. Eh bien, merci beaucoup pour l'accueil, c'était un pur plaisir.
Merci à toi.
Et à bientôt.
À bientôt.
Allez, merci.
Combien d'appareils numériques tu as à la maison?
Il y a deux écrans de télé, trois ordinateurs, une tablette, un téléphone. Il y avait une caméra vidéo, malheureusement on me l'a piqué. Alors voilà.
Mon ordi, mon téléphone, ma tablette.
Trop.
Quatre.
Attends, bah, ça dépend ce que tu entends. Le téléphone, tu le considères aussi comme
oui.
Tel. Alors ça fait un téléphone, deux tablettes et un ordinateur portable.
Alors, Il y a nos cinq téléphones. Il y a deux PC,
deux ordinateurs et la PlayStation.
Donc 8.
3. C'est pas beaucoup, hein?
Non.
3.
En fait, ça va. Ça va.
Ouais, j'arrive à être assez compact.
Et à quelle fréquence est-ce que tu utilises ces appareils?
Bah, les parents, tout le temps. Nous, chaque 3 jours. Enfin, le
3 jours par semaine, on a le droit à 2 heures chaque 3 jours par semaine. Enfin, sur
les week-ends.
Les jours où on a le droit, donc 4 jours dans la semaine, on a le droit à 2 heures.
Alors je me lève le matin à 6h30, j'allume l'ordinateur, parce que comme ça je me chauffe le café. Puis ensuite, quand pendant que mes programmes s'ouvrent, je réfléchis qu'est-ce que je vais faire à manger pour midi. Et puis ensuite, quand c'est ouvert, je commence à travailler un petit peu. Après, j'ai des téléphones et tout. Et vers 11h, je me fais à manger tout en travaillant. Je mange devant l'ordinateur. Et ça me dure jusqu'à... Avant, ça me durait jusqu'à 9, 10 heures, 11 heures. Et là, maintenant, je me suis dit, maintenant, c'est jusqu'à 6 heures. À 6 heures, j'arrête.
OK.
Mais maintenant, c'est encore mieux parce que sur mon balcon, j'ai le soleil qui vient à 4 heures. Donc jusqu'à 6 heures, j'ai le soleil. Donc là, j'arrête, je me mets au soleil. Et après, je recommence 2 petites heures sur l'ordi.
OK.
L'ordi tous les jours parce que je l'utilise pour le boulot.
Ouais.
En dehors du boulot, je ne l'utilise quasiment pas. Et puis mon téléphone, bien entendu, tous les jours.
OK.
Quotidiennement.
C'est quotidien.
C'est tous les jours.
Ah, vraiment, tous les jours.
Plusieurs fois par jour.
Oui, oui, bien sûr.
Même en week-end.
Alors, une fréquence horaire, sauf la nuit, je dors.
Qu'est-ce que l'informatique pour vous?
Une arme à double tranchant.
C'est un mélange entre une engeance et quelque chose de très pratique.
Un outil de travail.
Non, un ordinateur.
Le traitement des informations qui sont liées à la connaissance. En vue de les stocker pour les rendre disponibles, par exemple, ou en vue de les interpréter. Et c'est là que les avis divergent quant à la pertinence de ce traitement.
Est-ce que, selon vous, l'informatique est neutre et démocratique?
En fait, ça dépend ce qu'on entend par informatique. Moi, j'ai de la peine à faire la différence entre informatique et numérique. Parce que je ne suis pas sûre que ça soit via le fonctionnement de mon ordinateur. Pour moi, c'est de ce qu'il y a dedans, c'est de l'informatique. Et puis après, il y a le numérique avec tout ce que... Mais je peux me tromper, hein, c'est des définitions que je me suis faites comme ça dans ma tête. Et puis du coup, l'informatique, c'est pas démocratique parce que je trouve que ça a un coût. C'est pas à la portée de tout le monde. Être à jour logiciel, etc., ça a aussi un coût. Et puis le numérique, alors là, je pense que franchement, c'est pas du tout démocratique. Ça prend des airs démocratiques, mais dans les faits.
Bah ouais.
Si ça marche pas, t'essayes de faire ce que tu
veux. Ça sert à quoi, surtout pour vous?
Bah,
à jouer.
Bah ouais.
À jouer.
Alors, il faut savoir choisir ses médias. Alors, là, j'ai vu maintenant qu'il y a, un tableau qui a été fait où on explique exactement quels sont les degrés de confidentialité avec quels médias et quelle est la transparence et qu'est-ce qui est livré. Toutes nos données sont livrées aux États-Unis et quels sont les médias où c'est vraiment bloqué, c'est la confidentialité. Voilà. Mais maintenant, il y a un problème, c'est que moi, j'ai aboli WhatsApp parce que j'ai vu que ça a été vendu par Facebook, vendu chez Facebook. Je l'ai aboli et j'ai plus de contact avec personne. Donc, j'ai été obligée de recommencer, de me remettre dedans et puis après, j'ai abandonné. Mais maintenant, je vais quand même avertir mes interlocuteurs que maintenant je vais prendre un autre, mais je suis en train d'étudier lequel, parce que il y en a quelques-uns qui ont, tout le monde croit que c'est bon et puis non, en fait c'est complètement espion.
Neutre, je trouve pas tellement. Démocratique, on l'a démocratisé, mais en termes de consommation. Après, en termes de savoir-faire, de, etc., je suis un peu moins sûr.
D'instinct, j'ai envie de dire oui. Neutre parce que c'est au fond une technologie, dans le sens où c'est le résultat d'une réflexion humaine qui n'est pas motivée par une exploitation commerciale. L'exploitation commerciale est venue par la suite. Mais c'est plutôt à des fins de facilitation, d'accessibilité. Je suis un humaniste, hein, c'est pour ça que je vois les choses comme ça. Et ta deuxième question, ta deuxième partie de question, c'était
neutre et ou démocratique.
Démocratique, profondément démocratique dans sa conception. C'est-à-dire, le but, c'est vraiment de rendre disponibles les choses.
Pour toi, quelle serait ton utopie ?
Mon utopie, c'est que il y a une prise de conscience. À l'échelle de la population dans son entier, de la prise en otage en fait, qu'on subit par des gens qui se sont emparés de l'outil informatique à des fins d'exploitation de nos comportements. Je trouve qu'on ne se rend pas compte à quel point assez, en tout cas, je crois qu'on est peu à s'en rendre compte ou à l'accepter. On vit dans une société de plus en plus prédictive, que nous en fait on n'est pas un produit mais une ressource en tant qu'utilisateur de cette technologie, et que ça c'est profondément anti-démocratique, anti-humain, tout ce qu'on peut imaginer quoi. Pour moi, mon utopie, c'est qu'il y a une prise de conscience réelle, de choses qu'on n'accepte pas dans le monde réel et qu'on accepte à partir du moment où on est face à un écran.
Il faut déjà avoir la rapidité dans nos mains.
Moi, mon utopie, c'est qu'on utilise moins chez les gens, ils soient moins derrière les écrans, et qu'il y ait moins d'écran.
Il se trouve que j'ai un iPhone. Et je trouve que toutes les données, je me dis, mais il m'arrive demain quelque chose, ma vie privée n'est absolument pas protégée. On peut ouvrir mon téléphone et on sait combien de temps j'ai... On sait à peu près tout de ma vie quotidienne. En tout cas, on peut la reconstruire à partir de ça. Et moi, j'aimerais quelque chose, si tu veux, une utopie, ça serait qu'on puisse continuer d'avoir une vie privée et une vie publique. Ça fait partie des choses qui, pour moi, sont extrêmement importantes. Et puis sinon, j'aimerais qu'on ait, justement, qu'on utilise l'informatique, comme tu dis, uniquement pour ce qu'elle peut nous apporter de positif, mais qu'on réfléchisse aussi à la consommation qu'on en fait, quoi.
Moi, je pense que chaque individu devrait pouvoir profiter de toute cette bonne technologie à un niveau privé, comme dans la pensée. Hein ? On n'est pas en train de donner nos pensées à tout le monde. Donc l'informatique, c'est pareil, ça doit être privé. Et si on veut diffuser à quelqu'un, on peut diriger vers les personnes uniquement. Mais il faut que ça soit privé.
Partagerait les choses beaucoup plus et qu'on n'aurait pas besoin de les avoir à soi.